Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes en train de considérer le personnage du premier roi d'Israël, qui ça a été un échec, nous le verrons, et qui a quand même préparé la figure de celui qui lui succédera, David, le bien-aimé. Mais à ce propos-là, justement, à l'occasion du sacre, du premier sacre, de l'onction royale de Saül, on est parti d'un événement extrêmement concret, celui de la recherche d'Annès qui s'était perdu, et l'Annès du père de Saül qui s'appelait Kish, et qu'il fallait rencontrer. Donc il ne trouve pas les Annès, et il se dit, il y a un prophète, il y a un homme de Dieu dans le coin, hein, on appelle un voyant. Alors, un voyant va nous indiquer peut-être ce qu'il faut faire. Et la voyance dans notre civilisation actuelle n'est pas quelque chose de dépassé, et beaucoup de gens consultent d'une manière ou d'une autre des voyants ou recourent à la voyance, ce qui est toujours assez dangereux. Et en effet, l'écriture de manière constante répudie toute forme de voyance, ce qui est une façon de violer les secrets divins. Et un prophète est moins, parce que le terme ça a été désuet assez rapidement, est moins un voyant qu'un écoutant qui transmet la voix de Dieu. Et car le mot prophète ne veut pas dire d'abord, dans le sens de l'écriture, quelqu'un qui prévoit l'avenir, mais d'après le sens du mot en grec, c'est celui qui parle à la place de quelqu'un, donc celui qui transmet la parole de quelqu'un. Mais c'est pas d'abord un voyant, c'est pas un extra-lucide qui vous prédira votre avenir. C'est quelqu'un qui entend une parole de Dieu et qui la transmet pour qu'elle guide notre vie beaucoup plus efficacement que ne pourrait le faire un voyant extra-lucide. Les chrétiens qui se livrent à la nécromancie ou qui consultent les voyantes extra-lucides d'une manière ou d'une autre, ces chrétiens sont des violateurs, curieux et peureux, qui veulent posséder la connaissance divine de l'avenir sans recevoir le présent dans la confiance en Dieu. Les seuls voyants dont nous parle la Bible sont Moïse et Élie, ainsi que les trois apôtres qui, avec eux précisément, ont vu la gloire divine lors de la transfiguration. C'est quand même extraordinaire que lors de la transfiguration, Jésus était entouré de Moïse et de Élie, et les trois apôtres privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, ont vu la gloire divine et qui était confirmée donc par la présence des deux plus grands personnages de l'Ancien Testament, Moïse et Élie. Et d'une certaine manière, la foi permet déjà de participer à l'expérience de ces privilégiés. Rappelez-vous ce que dit Saint Jean dans son évangile à propos de la tombe vide, tombeau vide après la mort du Christ et sa mise au tombeau. En voyant le tombeau vide, il vit et il crut. Mais il n'a pas vu le Christ, il n'était plus là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et il vit le tombeau vide et il a compris, c'était un signe, et là il a cru. Mais ce n'est qu'après que les apôtres ont vu le Seigneur. Donc la foi est déjà une manière de trouver la vérité. La foi permet de participer à l'expérience de ceux qui ont vu Dieu. Et comme dit saint Paul dans la deuxième aux Corinthiens, nous tous en effet, qui le visage découvert réfléchissons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette image. Et allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est esprit. Et vous voyez, c'est encourageant pour chacun d'entre nous. Sans voir Dieu parfaitement, ce qui est réservé à l'au-delà, nous pouvons rencontrer des hommes de Dieu, des hommes et des femmes qui portent non seulement la parole de Dieu, mais surtout sa lumière, et qui émane quelque chose, et tout livré à l'action transformante de Dieu, ils irradient littéralement. Saint Grégoire le Grand, dans ses dialogues, ne cesse d'évoquer Saint Benoît sous le titre de vir Dei, d'homme de Dieu, un homme dont toute la vie révèle Dieu. Et pour bien comprendre la portée de ce titre, qui exprime sans doute la plus belle louange que l'on puisse faire d'un être humain, il faut se rappeler celui qui est donné à Dieu dans l'Épître aux Hébreux à propos des patriarches. Par la foi, Ils se sont totalement donnés à Dieu, et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. De même que l'alliance fait du Seigneur le Dieu de son peuple et d'Israël le peuple de Dieu, de même pour chacun de ses fidèles, Dieu est son Dieu dans la mesure où il accepte d'être l'homme de Dieu. Dieu et l'homme se définissent l'un par l'autre, ce qui manifeste l'indicible condescendance du Dieu amour et la grandeur insondable de l'homme qui se laisse envahir par l'amour de Dieu. Le monde et chacun d'entre nous ont besoin de ces hommes de Dieu. Ce sont des vrais séducteurs parce que seuls ils émeuvent en nous la fibre divine. Et grâce à Dieu, dans notre époque, nous avons connu des personnes de cette qualité-là, de présence et de présence révélant Dieu, et qui nous pouvons parler de Mère Teresa particulièrement, et qui a frappé tout le monde, et ou bien le pape Jean-Paul II, qui a quand même attiré beaucoup de foule et qui nous donne vraiment une image assez extraordinaire, pour ne rien dire du pape François actuellement, qui est au monde, d'après des sondages qui ont été donnés il y a un certain nombre de mois déjà, mais depuis longtemps, la personne au monde qui est la plus estimée. Et pensons aussi à l'abbé Pierre, qui avait un rayonnement particulier, sœur Emmanuel, donc des gens qui sont marqués de cette empreinte de Dieu. La vénération de Saül et de son compagnon pour l'homme de Dieu semble malgré tout intéressée. Et se voyant cet homme aux yeux pénétrants qui fixe l'invisible, est invité à regarder où sont les ânesses de Kish.